Le premier anniversaire du décès tragique des 7 trappistes d'Algérie qui ont été martyrisés, égorgés par le GIA, le groupe islamique armé. J'ai bien dit islamique, ça ne veut pas dire musulman. C'est une portion, c'est un groupe fanatique, ce n'est pas l'islam vraiment. Donc égorgés par le GIA le 21 mai 1996, il y a tout juste un an. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Il y a encore des gens qui ne savent pas du tout qu'il y a eu des trappistes qui ont été comme ça tués de façon tragique il y a un an. Et pourtant, ça fait le tour du monde, mais qui sont ces moines qui ont vécu jusqu'à l'extrême l'amour qu'ils avaient pour le Christ? Ce ne sont pas des surhommes, ce ne sont pas des experts en performance ascétique et mystique. C'est une poignée d'hommes, simplement, mais très bien représentatifs de l'espèce humaine, on pourrait dire. Il y a des intellectuels, il y a des manuels, il y a des gens qui étaient très communicatifs et d'autres des silencieux. Il y avait des impulsifs aussi, puis des calmes. C'était un petit groupe de 7 moines, très diversifiés, qui étaient unis. Unis par la quête de Dieu, c'est ça un monastère, hein? Où tout le monde cherche Dieu et se laisse chercher par Dieu dans une relation tout à fait fraternelle avec les gens des environs, les visiteurs, et eux, c'était avec le peuple algérien. Savez-vous qu'il y a au moins 46 missionnaires qui ont été assassinés l'an dernier, en 96, dont 40 sur le continent africain? Il y en a eu 19 au Zaïre seulement. Hein? C'est un document du Vatican qui nous révèle ça. L'année précédente, en 1995, il y en a eu un peu moins, 30 seulement, peut-on dire. A-t-on le droit de dire seulement? C'est un nombre exceptionnel, évidemment. Il s'agit, l'an dernier, de 3 évêques, de 18 prêtres, de 8 religieux, 13 religieuses et 4 laïcs actifs dans l'Église. C'est terrible, c'est vraiment tragique. Pour réfléchir à tout ça, j'ai trouvé un beau texte du Père Michel Fortin, missionnaire d'Afrique. C'est peut-être l'un des meilleurs textes que j'ai lus sur cette question. Écrit ici à Montréal. Le communiqué du groupe islamique armé commençait « Nous avons tranché la gorge de 7 moines ». Ce groupe islamique armé, c'est le plus radical des groupes islamiques algériens. Et les 7 moines trappistes français avaient été enlevés en mars, près de Médéa en Algérie. Puis le GIA, là, a voulu proposer un échange de prisonniers à la France. Sinon, il disait-il, les religieux en paieraient le prix. C'est une menace et un chantage qu'on connaît, n'est-ce pas, dans les cas d'enlèvement. Hein? Alors le président de la France a refusé toute forme de négociation avec ce groupe de terroristes. Ils sont devenus des otages, ces moines. Puis leur mort, mais c'était un acte de représailles. Ils sont martyrs parce qu'il y a eu dans la déclaration des islamistes, des déclarations par rapport à leur pratique de l'Évangile et à la haine qu'ils avaient contre tous ceux qui pratiquaient l'Évangile. Ces assassinats ont provoqué la stupeur, l'indignation, la condamnation dans le monde entier. Et cette religion choisit de vivre leur foi en Algérie et de consacrer leur vie à la prière. Ils méritent le respect de tous, c'est ce qu'a proclamé les hautes autorités du gouvernement français au Quai d'Orsay. Ils avaient choisi, ces moines, de vivre en Afrique du Nord. Pourquoi? C'était pour témoigner justement d'une entente possible entre les chrétiens puis les musulmans. Je vous dirai qui ils étaient tout à l'heure. Ils n'ont pas choisi de mourir, dit le cardinal Lustiger, mais ils ont choisi de rester, en dépit du grave danger, pour être avec ce peuple algérien et cette terre algérienne, où ils sont le signe volontaire de l'amour qui vient de Dieu. Ils étaient des hommes de Dieu, des hommes de prière, des hommes de paix, ajoute le cardinal Lustiger, archevêque de Paris. Que dire d'un tel massacre? Une des plus grandes richesses de ce monde devrait être l'équilibre humain et spirituel, auquel est parvenue une bonne partie de l'humanité à travers les millénaires, les siècles et les siècles. Et une des fines fleurs de la richesse humaine s'appelle la gratuité. Le père Michel Fortin déclare à ce sujet: la gratuité est faite d'ouverture à l'autre, de don de soi, de foi, d'espérance aussi. Et elle mise constamment sur l'intériorité pour parvenir à maintenir l'équilibre si fragile entre la passion de l'avoir et celle de l'être. Il ne s'agit pas d'avoir, il s'agit d'être. Ils étaient sept, ces moines, à avoir misé leur vie sur la gratuité. Sept à vouloir partager leur cheminement spirituel avec d'autres frères et sœurs en humanité, que sont les Algériens, qui sont musulmans, comme vous savez. Sept à croire que les richesses spirituelles feraient avancer le peuple algérien plus que des monceaux d'or et d'argent. Et dans l'ombre de leur petit monastère, ils croyaient que cette partie de leur humanité tournée vers le sacré pouvait sauver le monde. Ces moines-là, des trappistes français, ces cisterciens de la stricte observance, comme ceux que nous avons ici, tout près de Montréal, à Oka, j'en profite pour saluer le père Abbé, le père Yvon Moreau. Je lui dédie cette émission, il m'a aidé à la faire. Il ne s'adonnait pas, ces moines-là, au prosélytisme sournois pour essayer de convertir les musulmans, pas du tout. Tout ce qu'ils désiraient, c'était d'être accueillis afin de partager leur humanité. Une conviction profonde des habitants au cœur de tout ça, le fait que s'approcher de l'unique avec un U majuscule, c'est-à-dire Dieu ou Allah, apporterait la paix. Ces moines-là en témoignaient, mystérieusement incarnés dans la culture africaine. Savez-vous que la majorité de la population en était consciente? Les gens, les musulmans algériens, les savaient respectueux de leur tradition et de leurs croyances. C'étaient des hommes de Dieu en quête d'un bien supérieur, dont la vocation était supposée rapprocher des êtres humains, puis la grande majorité des Algériens puis des Algériennes les avaient perçus puis accueillis comme tels. Hein? D'accord, c'était des fous de Dieu. Ils avaient choisi de vivre leur idéal loin de leur pays, la France, loin de leur famille, car ils croyaient en la fraternité universelle. Ils se voulaient des témoins de lumière. Ils ont rencontré les témoins des ténèbres, ce groupe d'intégristes algériens, pourtant eux aussi croyants, eux aussi engagés, mais qui nourrissent un désir de conquête, ne sont pas comme les moines. Ce sont des fanatiques convaincus. Ils ne se préoccupent pas de la miséricorde envers l'étranger incroyant. Pas du tout. Eux, ces islamistes, ils ont un combat à mener. Celui qu'ils appellent la pureté de la foi, ou plutôt même la pureté de la race spirituelle. Il n'y a pas de compromis pour eux. Le compromis, ce serait pour eux un signe de faiblesse. Pour eux, les non-croyants en Allah, nous chrétiens, bien, les non-croyants sont des ennemis, car ils portent en eux des semences de faux dieux, disent-ils. Pardon. Du moins, c'est leur discours officiel. Bien sûr, il s'agit aussi et surtout de pouvoir et la guerre spirituelle qu'ils mènent. Elle s'inscrit, cette guerre, au cœur même du conflit algérien. Le conflit algérien fait rage depuis 20 ans. Il a sa part de martyrs, d'un côté comme de l'autre. Les intégristes puis les policiers s'affrontent, ce sont comme des pions sacrifiés à des convictions qui sont tout à fait opposées. Mais les cadavres des Algériens. Ça suffit pas à ces chefs ambitieux. Vous savez qu'ils sont rendus à 100 000 morts. Hein? 100 000, c'est terrible. Ces fanatiques exigent des morts exemplaires pour les jeter à la face du monde. Comme des trappistes. C'est un excellent moyen d'éveiller la conscience nationale. Voilà 7 morts exemplaires. Mais ces morts avaient accepté par avance leur martyr éventuel. Je crois bien qu'ils vont demeurer un symbole de paix, à la manière du Christ, qu'ils ont toujours voulu suivre, hein? Comme le père Michel Fortin a bien raison. Je vous donne quelques noms de ces moines. Mais il y en a deux qui ont échappé. Hein? Le frère Jean-Pierre, le frère Amédée ont échappé. Le premier à signaler, c'est le frère Christian de Chergé, le prieur de la communauté. Il avait 59 ans. Il était moine depuis 1969. Il était en Algérie depuis 1971. C'était vraiment devenu un Algérien. Il aimait l'Algérie. C'est une forte personnalité. Fils de général, il a connu l'Algérie pendant 3 ans au cours de son enfance et pendant 27 mois de service militaire en pleine guerre d'indépendance. Il a fait ses études à Paris, au séminaire des Carmes. Il est devenu, savez-vous, chapelain du Sacré-Cœur de Montmartre. Mais rapidement, il est entré au monastère d'Aigbel. C'est le monastère qui a fondé Tibirine, ce monastère algérien. Il est entré là, à Aigbel, et il a gagné Tibirine en 1971. Et puis, il avait une profonde connaissance de l'islam. Une extraordinaire capacité à exprimer la vie puis la recherche de sa communauté. Il y avait le frère Luc de Chier, qui est très étrange, 82 ans, qui était moine depuis 1941, en pleine guerre. Il était en Algérie depuis 1947, cet homme-là. C'est lui qu'on appelait le Toubib, c'est un médecin. Et puis, il a même, pendant la guerre, pris la place d'un père de famille nombreuse en partance pour un camp de concentration, un camp de prisonniers en Allemagne. Il a fait comme Maximilien Kolbe, Saint-Maximilien Kolbe. Mais il n'en est pas mort, heureusement, et pendant 50 ans, il a vécu à Tibirine, en Algérie. Il a soigné tout le monde gratuitement, les Algériens, là, les gens des environs, sans distinction. En juillet 59, il avait été déjà enlevé par les membres du Fonds de Libération Nationale. Il souffrait d'asthme. Il avait choisi pour son enterrement une chanson d'Édith Piaf, tellement il était plein d'humour. « Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. » Aussi le frère Christophe Le Breton, qui était moine depuis 1974 et en Algérie depuis une dizaine d'années, soit depuis 1987. C'était un homme chaleureux et explosif. Il était le 7e de 12 enfants. Lui, il s'est transformé en mai 68 dans les événements. Puis il a eu un contact avec le monastère de Tibirine en faisant de la coopération en Algérie. Puis à 24 ans, il est rentré au monastère de Tamier en France, mais il est amoureux de la terre algérienne. Puis après son ordination comme prêtre, il va devenir maître des novices de la communauté. Il y avait le frère Bruno Le Marchand aussi, en Algérie, au Maroc depuis 1990. Il venait de Bellefontaine, lui l'abbaye qui a fondé Oka. Le frère Michel Fleury, qui était moine depuis 1981, un homme simple, épris de pauvreté. Il venait d'une famille paysanne. Et puis, il a été prêtre auprès des pauvres. Il était ouvrier, prêtre, puis il a finalement senti, par l'abbaye de Bellefontaine, le goût de s'en aller en Algérie à Tibirine. Il était le cuisinier. Le frère Célestin Ringard, 62 ans, qui était en Algérie depuis une dizaine d'années. Il s'est occupé des plus malheureux, un prêtre diocésain qui a choisi tardivement la trappe. Il était extrêmement sensible. Et enfin, le frère Paul Favre-Miville, 57 ans, moine depuis 1984, qui était là depuis 8 ans en Algérie. C'était un savoyard. Il a d'abord été plombier. Il a fait son service militaire en Algérie. Il s'était pris de l'Algérie. Puis à Tibirine, bien, était l'homme qui s'occupait de l'irrigation et de l'eau. Il arrivait d'un séjour en famille en 96, quand il a été pris. Puis il a été tué. C'est une église éprouvée que celle d'Algérie. Ce pays qui de peine et de misère a réussi à gagner finalement son indépendance en 1960. Comprenez une église chrétienne catholique assez importante. Elle a choisi cette église de ne pas être une étrangère. Elle s'est faite algérienne. Cette église a choisi de demeurer discrète et fraternelle, disponible à l'égard des citoyens de l'Algérie. Ses souffrances s'unissent à celles de tout ce peuple divisé, qui constamment cherche, qui a besoin d'espoir, qui a besoin de lumière, qui n'a pas encore trouvé. Et c'est sans doute à partir de la conquête de cette Algérie qu'on appelait la Numidie en 46 avant Jésus-Christ par Jules César, qui a favorisé sitôt l'arrivée du christianisme en terre africaine. C'était des pays chrétiens que ceux d'Afrique du Nord autrefois. On sait que déjà, en l'an 180, des chrétiens y ont été persécutés, près de Carthage. On sait que, une quarantaine d'années plus tard, vers, disons, 220, il s'est tenu même un concile africain qui a réuni 70 évêques. L'expansion s'est continuée. C'est là qu'est apparu Saint-Augustin. C'était un Algérien, Saint-Augustin, le grand Saint-Augustin, qui a donné à l'Église algérienne autant de solidité que de célébrité. On en parle encore. C'est à la fin du 5e siècle que malheureusement l'Église décroît. Il y avait des divisions internes au point de vue doctrinal. Il y a l'arrivée des Vandales en 429. Et surtout l'arrivée des Arabes, c'était terrible, au 8e siècle. Et finalement, des musulmans ottomans, les Turcs, en 1556. Tout ça a provoqué le déclin puis la mort de l'Église. Sa survie n'aurait pu être assurée que par une espèce d'inculturation de la foi, comme on cherche à le faire aujourd'hui dans le monde, à travers les différentes cultures, les différents pays. Mais cette orientation, cet effort, ça n'a pas été envisagé à l'époque. On ne pensait pas tellement à ça. Il faut attendre la prise d'Alger par la France en 1830 pour que là, le catholicisme en Algérie, dans ce pays musulman, puisse mettre de nouveau le pied en Afrique du Nord. Je vous ai déjà fait une émission complète sur le cardinal Lavigerie, mais c'est le grand personnage de cette pénétration. La foi, à ce moment-là, la foi catholique a cherché à pénétrer la culture locale, tout en respectant les valeurs de cette civilisation. Alors il y a eu un nouveau regain, une connaissance plus profonde de l'âme africaine de la part de ce grand fondateur des Pères Blancs, des missionnaires d'Afrique. Ça a permis à l'Église de ne plus avoir un visage européen. Ça a permis à l'Église de se répandre petit à petit dans le continent pour répandre la paix, l'amour, la tendresse, l'évangile, la foi en Jésus. Et c'est sans doute cette préoccupation qui a permis, qui permet encore à l'Église algérienne, toute petite aujourd'hui, de subsister puis de supporter toutes ces épreuves épouvantables avec l'indépendance du pays, comme je vous ai dit, en 1960. Mais ce pays de l'Algérie a développé un sentiment évidemment nationaliste beaucoup plus aigu. Ça a vu naître des mouvements islamiques fondamentalistes qui sont caractérisés par un fanatisme souvent débridé. Il y a les vexations, les assassinats, le terrorisme qui s'attaquent aujourd'hui même à cette petite église de rien du tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, 100 000 morts maintenant, là. Quelle tristesse pour nos frères algériens. Nos frères musulmans d'Algérie, et plus particulièrement pour nos frères catholiques là-bas, si peu nombreux. Avec le départ des familles françaises, puis de nombreuses familles algériennes qui étaient devenues catholiques depuis 1960, là, cette église est devenue de plus en plus un petit reste attaché au pays, conscient que la nos présences, demeure un témoignage d'espoir. Hein. C'est cette présence des trappistes, cette présence de quelques-uns comme ça qui permet le maintien d'un dialogue avec les musulmans. Il y a là des gens qui offrent la sympathie, l'encouragement à cette masse importante et silencieuse des musulmans qui souhaitent une cohabitation pacifique et fraternelle avec les autres religions et qui ne sont pas fanatiques. Ce sont sans doute ces mouvements tolérants qui préparent un meilleur avenir au pays. Pour une première fois, disait Monseigneur Tessier, archevêque d'Alger, une épreuve infligée aux chrétiens est ressentie comme injuste par une communauté musulmane. C'est injuste, disent les musulmans, qui se rassemblent au moment des funérailles des catholiques assassinés, particulièrement des religieux et des religieuses. C'est un germe de solidarité humaine qui peut ouvrir, souhaitons-le, la fraternité. D'ailleurs, c'est très beau quand on lit le testament du prieur des trappistes, dont Christian-Marie de Chergé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, 59 ans, qui vivait en Algérie depuis 30 ans. Voici ce qu'il avait écrit. « S'il m'arrivait un jour, et ça pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon église, ma famille, se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays de l'Algérie. Qu'ils acceptent que le maître unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal. Qu'ils prient pour moi. Comment serais-je trouvé digne d'une telle offrande? Qu'ils sachent associer cette mort à tant d'autres, aussi violentes, laissées dans l'indifférence de l'anonymat. Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Hein? Il pense aux 50-100 000 morts. Elle n'en a pas moins non plus. En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde. Et même celui-là qui me frapperait aveuglément. Même celui-là qui me frapperait aveuglément. Il prie déjà, au fond, pour son futur assassin. J'aimerais le moment venu avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. Pardonner à qui m'aurait atteint, qui m'aurait tué. Je ne saurais souhaiter une telle mort, dit-il. Il me paraît important de le professer. Je ne vois pas en effet comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. C'est trop cher payer ce qu'on appellera peut-être la grâce du martyr que de la devoir à un Algérien quel qu'il soit, surtout s'il dit agir en fidélité à ce qu'il croit être l'islam. Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris globalement. Je sais aussi les caricatures de l'islam qu'encourage un certain idéalisme. Il est trop facile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie religieuse avec les intégristes et ses extrémistes. L'Algérie et l'islam, pour moi, c'est autre chose. C'est un corps et une âme. Je l'ai assez proclamé, je crois, au vu et au su de ce que j'en ai reçu. Y retrouvant si souvent ce droit fil conducteur de l'Évangile, appris aux genoux de ma mère, ma toute première église, précisément en Algérie, et déjà dans le respect des croyants musulmans. Dans ce merci, où tout est dit, désormais de ma vie, je vous inclus, bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui, et vous, ô amis d'ici, d'Algérie, aux côtés de ma mère et de mon père, de mes sœurs et de mes frères, et des leurs, sens-tu accordé comme il était promis. Et toi aussi, il parle de son assassin, l'ami de la dernière minute qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi, je le veux, ce merci, et ce Dieu, cet adieu envisagé de toi, et qu'il nous soit donné de nous retrouver comme des larrons heureux en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père, à tous deux. Amin. Quelle foi où dans son testament il pardonne déjà à son assassin. C'est extraordinaire. Quels gens merveilleux que ces trappistes, ces cisterciens. Vous pouvez vous procurer un très beau livre à ce sujet. Cette vie pour Dieu et l'Algérie. C'est paru chez Bayard Éditions, Centurion, évidemment l'an dernier. Ça s'est répandu très rapidement. Et vers la fin, je trouve un texte de Don Bernardo Oliveira, l'abbé général des Trappistes, qu'il a envoyé à tous les Trappistes et les Trappistines, ou les Cisterciens et les Cisterciennes de la stricte observance, à travers le monde, le 27 mai de l'an dernier, donc quelques jours, une semaine après l'assassinat. C'est écrit, c'est intitulé « Nos frères de l'Atlas ». Les moines habitaient ce qu'on appelle une région qu'on appelle l'Atlas en Algérie. Pour une lecture croyante des événements, pardon, Bernardo Oliveira, abbé général des Trappistes, bien chers frères et bien chères sœurs. Durant ces jours que nous vivons entre le dimanche de la Pentecôte et celui de la Trinité, ou à la cathédrale d'Alger, comme toutes les communautés de l'ordre cistercien de la stricte observance, nous ferons mémoire de nos sept frères de l'Atlas. Il me semble important d'essayer de relire à la lumière de la foi les événements qui nous affectent tous si profondément depuis l'annonce de la mort de nos frères. Alors il va raconter, je vais vous en lire un résumé que j'ai dressé, il va vous raconter ce qui s'est produit. Il parle d'un témoignage tout d'abord à ne pas oublier, la lettre apostolique du pape Jean-Paul II, Tertium Millennio Adveniente, de l'avènement du troisième millénaire. On en parle beaucoup de cette lettre du pape, en vue de la préparation là, du jubilé de l'an 2000, qui va rappeler que l'Église du premier millénaire est née du sang des martyrs, n'oublions pas ça. Notre Église est née dans les martyrs, dans le sang des martyrs. Faut pas oublier ça, le pape le rappelle d'ailleurs dans son lettre apostolique. Et puis, les Trappistes de l'Atlas ont laissé le témoignage aujourd'hui, alors qu'on va célébrer l'an prochain le 900e anniversaire de la fondation des Cisterciens, qui est une branche des Bénédictins. Ça a été fondé en 1098 par Saint Robert de Molème. C'est quelques années après qu'est entré Saint-Bernard avec tous ses amis. Je vous ai tout raconté ça déjà. Puis, il faut pas oublier qu'en l'an 2000, surtout, les 200 ans, depuis la naissance et la mort de Jésus-Christ, c'est ça qu'on va célébrer. On ne doit pas oublier ça. La communauté des Cisterciens, comme les Bénédictins, font un vœu de stabilité. Ces moines-là avaient fait des vœux de stabilité, c'est-à-dire d'attachement à leur monastère de Tibirine dans l'Atlas. Et le père, dont Bernardo Oliveira, écrit « Nous faisons tous comme moines de la tradition bénédictine cistercienne un vœu de stabilité qui nous lie jusqu'à la mort à notre communauté et au lieu où vit cette communauté. Comment comprendre la profondeur de ce vœu dans une vie de moine? Peut-être que le texte de la lettre que le père Christian avait projeté d'envoyer le 28 décembre 1993 à Saya Atiya, le chef du groupe islamique armé et du groupe armé qui s'était présenté au monastère la veille de Noël, pourrait nous donner le sens de ce vœu. Voici le texte de cette lettre. Il écrit à un musulman fanatique qui veut le tuer. C'est quelque chose. Écoutez bien ça. Frère, permettez-moi de m'adresser à vous ainsi, d'homme à homme, de croyant à croyant. Dans le conflit actuel que vit le pays, il nous semble impossible de prendre parti. Notre qualité d'étranger nous l'interdit. Notre état de moine, Rouban, nous lie au choix de Dieu sur nous qui est de prière et de vie simple, de travail manuel, d'accueil et de partage avec tous, surtout avec les plus pauvres. Ces raisons de vivre sont un choix libre de chacun de nous. Elles nous engagent jusqu'à la mort. Et écoutez ça, c'est incroyable. Je ne pense pas que cela soit la volonté de Dieu que cette mort vienne par vous. Si un jour les Algériens estiment que nous sommes de trop, nous respecterons leur désir de nous voir partir, avec un très grand regret. Je sais que nous continuerons de les aimer tous ensemble, et vous en êtes. Quand et comment ce message vous parviendra-t-il? Peu importe. J'avais besoin de vous l'écrire aujourd'hui. Pardonnez-moi de l'avoir fait dans ma langue maternelle. Vous me comprendrez. Et que l'unique, c'est-à-dire Dieu, que l'unique de toute vie nous conduise à Amin, A-M-I-N, à la façon musulmane. On voit le grand cœur de cet homme, prieur du monastère. Dans le discernement qui les a conduits à cette décision de rester là, à l'Atlas, malgré la situation de tension épouvantable qui prévalait à ce moment-là, les frères trappistes, on les appelle des frères, hein? Il y a des prêtres là-dedans, étaient conscients de la possibilité d'une mort violente. La lettre que le père Christian écrivait au maître général, après l'assassinat de deux religieuses en septembre 1995, il dit clairement, il parle de cette cérémonie des funérailles des deux religieuses qui ont été assassinées. La célébration avait un beau climat de sérénité et d'offrande, écrit-il. Elle réunissait une toute petite église dont les membres restants ont tous conscience que la logique de leur présence, doit inclure désormais quoi? L'éventualité d'une mort violente. Ça doit être épouvantable de vivre comme ça, grand Dieu. Et il ajoute dans sa lettre au général à Rome, c'est pour beaucoup comme une plongée neuve et radicale dans le charisme même de leur congrégation et aussi un retour à la source du premier appel quand ils ont senti les premiers appels comme les apôtres d'ailleurs. Pour autant, ajoute-t-il, il est clair que le vœu de tous est bien qu'aucun de ces Algériens à qui notre consécration nous lie au nom de l'amour que Dieu leur porte ne blesse cet amour en tuant l'un quelconque d'entre nous, l'un quelconque de nos frères. Alors on voit bien que la réflexion de ce père Christian sur la possibilité d'une mort violente, c'est devenu au fond comme une prière dans son cœur. C'est celle de l'homme qui se veut totalement désarmé, de toute forme de violence devant son semblable, son frère. Au fond, sa prière, ça se résumerait ainsi, « Seigneur, désarme-moi et désarme-les ». On est loin de l'esprit de vengeance de certains grands musulmans comme l'ayatollah Khomeini, puis ces gens-là. C'est pas la même religion. Ça se ressemble, mais c'est pas pareil. C'est mon avis, en tous les cas. C'est l'amour qui prime. Oh, nous, catholiques, nous ne sommes pas toujours pleins de pardon. Nous ne sommes pas toujours pleins de douceur. Mais je crois que le catholicisme a toujours progressé depuis 2000 ans. Et nous vivons davantage dans un esprit d'amour. À trois reprises, au moins, surtout à l'occasion de l'assassinat d'autres religieux et religieuses que le père Christian connaît, il va évoquer la possibilité de sa propre mort. Il y a l'assassinat d'un frère Henri, un mariste. Nous avons un mariste qui travaille à Radio Ville-Marie le soir. Eh bien, il écrit « J'étais personnellement très lié au frère Henri. Sa mort me paraît si naturelle, si conforme à une longue vie tout entière donnée. Il me semble appartenir à la catégorie de ce que j'appelle les martyrs de l'espérance, ceux dont on ne parle jamais parce que c'est dans la patience du quotidien qu'ils versent leur sang. » Pauvre frère, je passe sur bien d'autres qui ont été assassinés au cours de ce 20e siècle. Il y a deux autres communautés, des trappistes qui ont donné à l'Église et au monde là, des martyrs authentiques de l'amour et de la foi. Il y a les 33 martyrs de Notre-Dame de Consolation en Chine, c'est dans les années 40, juste après la guerre. Puis il y a les 19 martyrs trappistes aussi de Notre-Dame de Via Chili, en Espagne, durant la guerre d'Espagne en 36 et 37. Et la cause de béatification de ces deux groupes de martyrs est introduite à Rome, hein? On peut imaginer que les 7 martyrs de Notre-Dame de l'Atlas, en Algérie, qui ont donné le même témoignage d'amour et de foi, seront vraisemblablement un jour béatifiés. Dans ces trois situations de ces trois groupes de cisterciens, de trappistes assassinés, il ne s'agit pas d'une grâce individuelle, mais d'une grâce communautaire, pardon. L'amour, comme dit le général des trappistes, l'amour de nos frères pour l'Église d'Algérie et pour leur Église locale d'Alger est bien connu. leur vie et leur mort s'inscrivent au registre de tous ces hommes et de toutes ces femmes, religieux et religieuses, chrétiens et musulmans, qui ont vécu et donné leur vie pour Dieu et pour les autres. Alors, le 27 avril 1996, donc un peu plus d'un an, un mois donc après l'enlèvement des moines, le journal Al-Hayat publiait des extraits du communiqué 42 du groupe islamique armé daté du 18 avril, donc 9 jours avant. L'émir du GIA, le chef si vous voulez, ne reconnaît pas la manne, c'est-à-dire la protection que leur avait accordée son prédécesseur. Et d'ailleurs, cette amane n'aurait pas été licite puisque les moines, tels que le rapporte le communiqué 43, n'ont pas cessé d'appeler les musulmans à s'évangéliser, disent ces fanatiques-là, de mettre en exergue leurs slogans et leurs symboles, et de commémorer solennellement leurs fêtes. Alors cet émir fanatique affirme en outre que, imaginez, les moines qui vivent parmi les gens du peuple peuvent être licitement tués. Quel fanatisme! Il ajoute, et tel est le cas des moines de l'Atlas. Ils vivent avec les gens, dit le texte, et les écartent du chemin divin en les incitant à s'évangéliser. En trouvant l'amour, quoi. Mon Dieu. Et il termine en disant, le texte de ce fanatique, il est aussi licite de leur appliquer ce qu'on applique aux mécréants originels lorsqu'ils sont des combattants prisonniers. Le meurtre, l'esclavage, ou l'échange avec des prisonniers musulmans. Alors là, après ça, vient l'avertissement, puis la non-libération des prisonniers du GIA. Ça va avoir comme conséquence quoi? Ben, la mort des moines. Et voici le texte. C'est terrible à lire, mais je vous le lis. Ce sont des fanatiques là, qui parlent. C'est pas les musulmans en général. Mettez-vous bien ça dans la tête. Des islamistes excessifs. Vous avez le choix. Si vous libérez, nous libérerons. Si vous refusez, nous égorgerons. Louange à Dieu. Que nous avons besoin aujourd'hui de prier pour ces hommes. D'ailleurs, certains d'entre eux sont morts déjà. De prier pour que leur cœur change. En somme, ces trappistes ont été condamnés à mort au nom de l'évangile qu'ils ont professé. Vous voyez bien. Le frère Henri, après l'assassinat du frère Henri Maris, le père Christian écrivait à un groupe d'amis, « Notre frère fut essentiellement donné jusqu'à ce don parfait du pardon, inclus d'avance dans la première proposition qu'il m'envoyait pour ajuster à la situation actuelle les orientations concrètes de notre groupe. » Écoutez bien ça, la lettre du frère Henri Mariste. « Dans nos relations quotidiennes, prenons ouvertement le parti de l'amour, du pardon, de la communion, contre la haine, la vengeance et la violence. » C'est un frère, ça, un frère Mariste, qui a écrit ça. Je le lis, relis. « Dans nos relations quotidiennes, prenons ouvertement le parti de l'amour, du pardon, de la communion, contre la haine, la vengeance et la violence. » On peut se reporter au texte de l'Apocalypse. Alors je vis un agneau. Un agneau se dressait, qui semblait égorgé. Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu, et de l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit, mais ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, le 23 mai 1996, on apprenait par le ministère des Affaires étrangères de France qu'une radio marocaine avait diffusé un nouveau communiqué du groupe islamique armé. Le numéro 44, et ce communiqué donne le sens de l'exécution des frères trappistes par leur ravisseur. Ça doit être lu à la lumière du communiqué précédent, des motifs de condamnation, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça prévoyait le meurtre, l'esclavage ou l'échange avec des prisonniers musulmans. Alors, comme il n'y a pas eu d'échange de prisonniers, bien, le GIA a décidé d'appliquer la sentence prévue. Alors, voici le texte terrible du groupe islamique armé. Le 18 avril 1996, Un communiqué a été publié et nous avons dit, si vous libérez Abdelak Layada, nous libérons les moines. Si vous refusez, nous égorgeons. Le 30 avril 1996, nous avons envoyé un émissaire à l'ambassade de France, porteur d'une cassette audio, prouvant que les moines sont encore en vie, et un message écrit précisant les modalités des négociations, si les Français veulent récupérer leurs prisonniers vivants. Dans un premier temps, ils se sont montrés disposés à le faire, et nous ont écrit une lettre signée et cachetée. Quelques jours après, le président français et son ministère des Affaires étrangères ont déclaré qu'ils ne dialogueraient ni ne négocieraient avec les GIA. Ils ont interrompu ce qu'ils avaient commencé et nous avons tranché la gorge des sept moines, fidèles en cela à notre engagement. Louange à Dieu. Et ce fut exécuté ce matin, le 21 mai. Quelle horreur, hein? La vie et la mort de ces frères trappistes est un témoignage à ne pas oublier. À ne pas oublier. C'est la clameur de leur cri d'amour et de foi qui retentit dans nos cœurs. Or, que faire pour que la mémoire de ces événements donne des fruits pour l'ordre et pour l'Église, l'ordre des cisterciens? C'est ce qu'écrit aujourd'hui même l'abbé général des cisterciens de la stricte observance. C'est daté de Rome, 21 mai 1997. Cette lettre a été expédiée à tous les cisterciens et les cisterciennes à travers le monde. Et le père abbé de la Trappe d'Aucun a eu la gentillesse de m'en envoyer une copie. À cette question, que faire pour que la mémoire de ces événements donne des fruits pour l'ordre et pour l'Église? Le père abbé général répond, la première réponse qui me vient à l'esprit est celle-ci. Partagez avec vous tous, frères et sœurs, en ce premier anniversaire de la Pâque, ou si vous voulez, du passage de nos frères, ce que je considère comme le cœur de l'héritage qu'ils nous ont légué. Il dit un peu plus loin, le don de soi. Qui se donne à Jésus se meut vers lui, afin d'être transformé par lui et en lui. Et imaginez que ce père général, aujourd'hui, dans son texte, ajoute cette remarque très humble, très très humble. Malheureusement, et cela fait mal de le dire, dans la vie chrétienne et dans la vie monastique, on trouve beaucoup de gens émus qui se meuvent bien peu. Ils bougent pas. Ils sont émus, mais ils bougent pas. Quelle audace! Ce père abbé général ajoute, la petite église d'Algérie, souffrante et éloquente, se trouve devant un défi extrême. Beaucoup en attendent un témoignage de radicalisme évangélique qui puisse aller jusqu'au sang versé. Chrétiens et musulmans, croyants et incroyants, ont les yeux fixés sur elle, attendant un cri d'espérance au milieu du monde déchiré dans lequel nous vivons. Ce défi dépasse toutes les forces humaines. Mais rien n'est impossible à Dieu. Cette Église est la vraie dépositaire de la mémoire de nos frères. Elle est l'héritière d'un patrimoine de martyrs qui nous dépasse. Mais nous voulons être solidaires pour être vraiment co-héritiers. Et le père abbé général des cisterciens ajoute, c'est un texte, je vous le rappelle, d'aujourd'hui, de ce jour d'aujourd'hui. Alors, pour être co-héritiers avec cette Église de martyrs, nous devons être totalement ouverts aux martyrs monastiques. Totalement donné dans une vie grande, remplie de petites choses, versant notre sang dans la patience du quotidien. On rejoint la grande spiritualité dont je vous parle souvent et que l'on croit être uniquement celle de Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais que Thérèse de l'Enfant Jésus a vécu et proclamé d'une façon fantastique. Je continue la lecture. Aujourd'hui, comme au jour de notre profession, nous sommes invités à dire « Reçois-moi, Seigneur, selon ta parole et je vivrai, que je ne reste pas confondu. » Notre vue de conversion des mœurs peut se comprendre comme un vœu monastique de suite de Jésus. Le chemin de l'obéissance, silence, humilité, du bon zèle, et des bonnes œuvres, et notre façon monastique de suivre le Christ. C'est de cette façon que nous nous mouvons, que nous nous approchons et que nous nous donnons au Seigneur pour être totalement transformés en lui. Et c'est ainsi et seulement ainsi que nous sommes témoins et co-héritiers avec cette église de martyrs qui souffre et se réjouit en Algérie. Connaissons notre fragilité avec Bernard de Clairvaux et nous prions confiants. Entraîne-moi sur tes pas, Seigneur. Nous courons dans l'odeur de tes parfums. J'ai besoin d'être entraîné parce que la flamme de ton amour s'est peu à peu ralentie en nous. Pris dans cette température plus basse, nous ne sommes plus capables de courir comme nous le faisions hier et avant-hier. Mais nous courrons quand tu nous auras rendu la joie de ton salut, quand sera revenu le beau temps de la grâce et le soleil de justice qui percera les nuées de la tentation où il se cache pour le moment. Sous la caresse d'un souffle plus doux, les onguents se mettront à fondre, les aromates à couler et à répandre leur parfum, et alors nous courrons sur la trace de ces senteurs. Notre présente torpeur se dissipera, notre ferveur renaîtra, et déjà, nous n'aurons plus besoin qu'on nous entraîne, puisque l'odeur à elle seule suffira à nous faire courir. Mais en attendant, entraîne-moi, Seigneur, sur tes pas. Alors, les communiqués 43 et 44 que je vous ai lus tout à l'heure, du GIA, ont bien montré que les trappistes ont été condamnés et exécutés parce qu'ils étaient moines et chrétiens. Et le père abbé général ajoute, « Nous aussi, nous sommes moines et chrétiens. C'est pourquoi nous avons une dette de pardon envers le GIA, et surtout envers Abou Abdel Rahman Amin Jamel Zitouni, chef du groupe et responsable de la sentence et responsable de la décapitation de nos frères. Mais ce n'est pas seulement une dette de pardon envers cet ami de la dernière heure, mais aussi le désir de sceller avec lui une alliance de communion fraternelle. Les moyens de communication nous ont fait savoir le 16 juillet dernier que Jamel Zitouni était mort, victime de la même violence dans laquelle il avait vécu et à laquelle il avait cru. Jamel et Christian, le père Christian, s'il a plu à Dieu, se sont rencontrés au paradis comme deux larrons heureux, tel était son souhait. L'un comme l'autre, ainsi que les six autres moines, sont éternellement nos frères. À tous les huit, nous voulons dire merci. Cet héritage nous dépasse car il est immense. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et l'abbé général, dont Bernardo Oliveira termine cette lettre à ses moines et à ses moniales, je vous embrasse fraternellement. En Marie de Saint-Joseph. C'est très émouvant, la foi de ces moines, leur charité, leur bonté.